Libre FM, les infos.
Le gouvernement de la transition a procédé ce samedi à un remaniement partiel portant sur 16 des 28 portefeuilles du gouvernement dirigé par Choguel Kokalamaiga. C'est le premier remaniement ministériel opéré par le président de la transition depuis sa prise de pouvoir en 2021. Les détails au cours de ce journal. Environ 10 ans de présence sur le territoire malien, l'histoire de la MINUSMA a désormais pris fin au Mali. Le départ de la mission onusienne au Mali est-il vraiment nécessaire? Quel serait l'impact de ce départ sur les populations vulnérables? Les éléments de réponse dans ce journal. Voilà, fidèles auditeurs, c'était les grandes articulations de ce journal. Bienvenue au rendez-vous de l'information. À la présentation, Kouate Assanatou Yaya, et la mise en onde est assurée par Boubacar Traoré. 2 ans après la formation du gouvernement de Dr Choguel Kokalamaiga, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé ce samedi 1er juillet au remaniement ministériel. Le nouveau gouvernement est constitué de 27 ministres et un ministre délégué. Mamadou Dimari Sissoko.
Plusieurs nouveaux ministres font leur entrée dans le gouvernement de Dr Choguel Kokalamaiga. Les ministres de la Santé, de l'Éducation nationale, des Mines, du Travail et de la Fonction publique et celui de la Communication ont perdu leur poste. 4 femmes font leur entrée et occupent respectivement les départements de la Santé et du Développement social, de l'Énergie et de l'Eau, de l'Emploi, de la Promotion de la Famille et des Enfants et celui de l'Industrie et des Commerces. Les ministres des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, celui de l'économie et des finances, Aloussine Sanou reste dans le gouvernement. D'autres ministres ont également changé de département. Il s'agit de Moussa Ag Atayer, lui qui occupait le ministère de la Jeunesse et des Sports, occupe maintenant le département en charge des Maliens établis à l'extérieur. Le département de la sécurité est toujours tenu par le général Daoud Mohamedine. Celui de la défense par le colonel Sadio Camara. Colonel Abdoulaye Maiga reste le ministre d'État et celui de l'administration territoriale. Et le colonel major Ismaël Wagé détient le ministère en charge de la réconciliation nationale et de la paix.
Toujours dans la même dynamique, le gouvernement de la transition a procédé à un remaniement ce samedi 1er juillet 2023. Ce changement de poste des ministres était-il nécessaire? Notre reporter Fanta Diarra s'est entretenu avec Boubacar Boukoum, analyste politique, suivant son reportage.
Dans un communiqué qui déclare les dispositions du décret du 11 juin 2021 portant nomination des membres du gouvernement, 16 ministres des 28 portefeuilles du gouvernement ont été remplacés. Entre autres, les ministres de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, de la Santé et du Développement social, du Travail. 4 autres ont changé de portefeuille ministériel. C'est le cas de Moussa Ag Atayer, qui était ministre de la Jeunesse et des Sports. Il occupe désormais le département des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Ce remaniement intervient à 8 mois de l'élection présidentielle au Mali. Boubacar Boukoum, analyste politique.
Le président de la transition a un pouvoir discrétionnaire de pouvoir changer le gouvernement quand il le désire. Et cela est clair. Maintenant, au-delà de cet aspect, aujourd'hui, changer un gouvernement à 8 mois des élections présidentielles, je pense que le casting n'est pas du tout bon parce que 8 mois, le temps que les nouveaux occupants des postes s'adaptent et commencent à travailler réellement, on pense que 3, 4 ou 5 mois sont déjà écoulés.
Pour Boubacar Boukoum, ce remaniement renforce le président de la transition.
Donc le président de la transition se renforce en amenant des proches parce qu'il y a des chargés de mission, il y a des conseillers autour de lui qui sont venus comme ministres. Donc ceci voudrait dire objectivement que le président de la République se renforce. Et l'autre chose est de dire aujourd'hui que nous allons être très rapidement confrontés à un défi constitutionnel. Parce que dans le chronogramme, il fallait faire les élections communales, régionales, législatives avant d'arriver aux élections présidentielles. Ça va être très compliqué parce qu'une fois que la Constitution va être promulguée, qui va encore piloter? Parce que la posture du président de transition et la posture du président de la République sont deux choses différentes. Donc il va falloir résoudre très rapidement cette équation, ce qui nous fait croire en tant qu'analyste qu'il y a de fortes chances qu'on anticipe par les élections présidentielle.
Le M5-RFP, qui était représenté par plusieurs ministres, n'a plus que le chef du gouvernement et le ministre de la Refondation, selon l'analyse. Ce changement dénote d'un divorce entre les partis. Boubacar Bokoum, analyste politique.
Parce que si je fais le décompte, je vois qu'il y a M. Choguel Kokala Maïga et Ibrahim Ikassa. Et en dehors de ça, je n'ai pas une autre visibilité, je n'ai pas connaissance de l'approche du M5-RFP. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le M5-RFP et la transition, j'ai tout l'impression qu'il y a un divorce.
Malgré ce changement, dans le gouvernement de la transition, le nombre des membres reste à 28.
Merci Fanta Diarra. 10 ans de présence sur le territoire malien, le mandat de la mission onusienne au Mali ne sera pas prolongé. Cependant, quel serait l'impact du départ de la MINUSMA sur la population? Notre reporter Idrissa Sagara s'est rendu auprès de quelques citoyens pour savoir leur point de vue sur cette situation, suivant son reportage.
La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, a été déployée au Mali le 25 avril 2013 pour appuyer le processus et la restauration de la paix au Mali. Cependant, le gouvernement de la transition n'est pas satisfait du résultat de la MINUSMA et a réclamé le départ de la dite mission. Certains citoyens pensent que la MINUSMA a failli à sa mission.
La MINUSMA n'est pas là pour la création des emplois. Dans ses objectifs, je pense que le côté social est là, mais le plus important, c'était la sécurité. S'ils n'arrivent pas vraiment à nous donner satisfaction à ce point, leur mission était aussi de pouvoir faciliter la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Si là aussi, on n'a pas eu cette satisfaction, au contraire, les zones d'insécurité s'agrandissent. Je pense quand même que si la MINUSMA est considérée comme un mal, si la MINUSMA a failli à ce niveau, je pense que ce côté social ne peut pas être plus important que le côté sécurité.
Mais en ce qui concerne le côté sécuritaire, que tous les Maliens s'attendaient à ce que la MINUSMA puisse mettre fin aux hostilités qui se passent dans notre pays. Donc la MINUSMA n'a pas joué un rôle très très important que, dont les Maliens avaient besoin. La place de la MINUSMA n'était pas très très importante au Mali ici du côté sécuritaire. Dans l'ère de part du côté humanitaire, ça va jouer sur nous. Mais on avait besoin de du côté sécuritaire. Parce que qui dit humanitaire parle de la sécurité d'abord. Parce que c'est la sécurité qui est primordiale.
Par contre, d'autres pensent que la MINUSMA a joué un rôle important sur le plan humanitaire.
Avec la mission de la MINUSMA, surtout du côté humanitaire, ils ont joué un grand rôle. Parce que ils ont pu aider les populations vulnérables. Ils ont pu faire beaucoup de fourrage à travers beaucoup de villages et surtout aider les déplacés. Et aussi, beaucoup de jeunes Maliens à travers l'aménagement ont eu quelque chose à exercer.
Ça, il y a aussi quand même des impacts socio-économiques s'agissant des milliers de Maliens qui étaient peut-être des employés au niveau de l'aménagement qui vont vraiment devoir compter sur autre chose. Des entreprises qui dépendaient des activités ou bien des marchés de l'aménagement qui sont tous un peu dans la difficulté. Je pense que dans les prochains jours à venir après le départ de l'aménagement.
Le gouvernement de la transition doit avoir une alternative pour toutes ces populations qui dépendaient de l'aménagement. Issiaka Dembélé, citoyen.
Ça va avoir cet impact plus ou moins négatif sur l'aspect social et économique. Mais je pense quand même que l'État qui a pris la décision d'ouvrir la porte de départ à l'aménagement doit quand même avoir la responsabilité de pouvoir trouver une solution à ce point.
À noter que le départ de l'aménagement sur le territoire malien sera effectif à partir du 31 décembre 2023, soit sur 6 mois à compter de ce samedi 1er juillet 2023.
L'actualité hors de nos frontières à présent avec Mamadou Dimari Sissoko. Présidentiel au Sénégal, Macky Sall à l'heure du choix.
Effectivement, le président sénégalais Macky Sall va mettre fin au suspense. Il doit annoncer ce lundi soir s'il sera candidat à un troisième mandat pour la présidentielle de 2024 dans un climat de haute tension. Son principal opposant appelant à manifester massivement, quel que soit son choix. Depuis des mois, le chef de l'État entretient le flou de sa candidature, laissant les Sénégalais spéculer dans l'attente de cette décision qui pourrait décrypter le climat politique s'il se désiste ou provoquer une nouvelle fièvre s'il acte sa participation. Il prononcera son discours à 20h en direct sur la télévision publique RTS.
Au Soudan, combat à Khartoum, l'armée appelle les jeunes à s'enrôler.
Khartoum est secoué ce lundi par les tirs d'artillerie lourde des paramilitaires et de l'armée assaillie sur plusieurs fronts et qui réclament une nouvelle fois les renforts des civils dans une guerre sans issue après environ 3 mois. Le bruit des combats a débuté vers 4h du matin et ne s'est pas interrompu depuis. L'un des millions d'habitants encore bloqués dans la capitale soudanaise sans eau, sans électricité et avec des réserves de vivres et d'argent quasiment secs. La guerre sans merci pour le pouvoir qui oppose l'armée dirigée par le général Abdel Fattah aux paramilitaires des forces de soutien du général Mohamed Daglo a fait depuis le 15 avril près de 3 000 déplacés et 2,8 millions de déplacés et réfugiés.
ONU, le droit à l'alimentation menacé par le changement climatique.
Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a tiré la sonnette d'alarme ce lundi. Le droit à l'alimentation des populations est en péril. Il est menacé par des phénomènes météorologiques extrêmes et des catastrophes qui dévastent les moyens de subsistance, conséquences du changement climatique. Les pays les moins avancés sont plus exposés à la crise alimentaire à venir, alors qu'ils ne sont quasiment pas responsables des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Leur population paye le prix fort des gaz produits par les pays industrialisés.
Pour terminer, Mamadou, en Afrique du Sud, une nouvelle coalition politique contre l'ANC.
Les principales partis d'opposition d'Afrique du Sud font feu de tous les bois afin de mettre l'ANC au pouvoir depuis 3 décennies. Lors des élections prévues l'année prochaine, l'Alliance démocratique s'est associée à 6 petits groupes pour former une coalition anti-ANC. Sa formation a été annoncée ce lundi. Et la machine se met progressivement en place. Les dirigeants des 7 partis membres de ce nouveau bloc politique doivent se réunir les 16 et 17 août à Johannesburg afin de définir une vision commune pour un nouveau gouvernement. C'est ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale.
Merci beaucoup Mamadou Dimari Sissoko pour toutes ces précisions. De retour à chez nous, l'Institut des sciences politiques, relations internationales et communication ISPRIC, en partenariat avec l'ambassade de la République populaire de Chine au Mali, a initié un colloque sino-africain sur le thème « La démocratie populaire intégrale de la Chine, un modèle gagnant, quelle inspiration pour l'Afrique ?» L'ouverture officielle des travaux était ce lundi 3 juillet 2023 sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Le compte-rendu avec Aminata Dede Sissoko.
Pendant 2 jours, les experts et chercheurs africains et d'ailleurs vont mener des réflexions des différents modèles de démocratie. À l'initiative de ce colloque, l'Institut des sciences politiques, relations internationales et communication, ISPRIC. Dr Mohamed Gakou, directeur général de l'ISPRIC.
ISPRIC, carrefour de l'intelligentsia africaine, conformément à ses ambitions d'être la meilleure école pour l'émergence des nations, s'est joint à l'ambassade de la Chine pour créer un cadre de rencontre entre les différents chercheurs qui se pencheront sur les modèles gagnants de la démocratie chinoise en vue de proposer des solutions aux défis que connaissent les systèmes de gouvernance africain. Si la Chine est devenue une puissance économique, je dirais même une superpuissance, c'est grâce à son choix d'un modèle de démocratie conforme à ses réalités les plus profondes. Ce colloque sera donc l'occasion de repenser les démocraties africaines à partir d'une réflexion sur le modèle chinois qui possède des particularités que nos brillants panélistes décortiqueront.
Pour l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali, partenaire de l'événement, la démocratie chinoise répond aux besoins des populations de son pays. Chen Jiong, ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali.
La Chine œuvre à promouvoir la démocratie en fonction de ses conditions et réalités nationales. La démocratie de la Chine est celle du peuple dont la nature et l'essentiel consiste à assurer que le peuple est le maître du pays. La démocratie populaire intégrale de la Chine est sous la conduite du Parti communiste chinois qui associe la démocratie électorale et la démocratie consultative.
Selon le ministre des Affaires étrangères, chaque démocratie doit avoir ses racines dans la culture du peuple auquel elle s'applique. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale.
Le Mali se reconnaît pleinement dans le thème qui nous réunit durant ces deux jours. Pendant longtemps, et même très longtemps sans doute, les pays du sud global, particulièrement les pays africains, du fait de leurs relations avec les anciennes puissances coloniales, se sont vus imposer des modèles de gouvernance qui ne correspondent pas du tout à leur mode d'organisation sociale. Bien avant d'être des États modernes, l'Afrique avait des nations, des communautés de personnes guidées par un désir de vivre ensemble. La promotion du dialogue, de la consultation, mais aussi de la recherche du consensus. Ces nations avaient leurs propres règles de vie communes qui structuraient la gestion de la cité à l'image de la charte de Kourou-Kanfouga de 1236 sous l'Empire du Mali et qui fixaient les valeurs fondamentales de ce qui sera appelé plus tard les droits de l'homme.
Quatre panels sont au programme. Les experts échangeront sur les modèles de démocratie en Afrique de l'Ouest, les démocraties populaires chinoises et occidentales et la diplomatie économique.
Nous terminons avec le sport. Dans le cadre de la dernière journée des matchs du groupe B de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans qui se déroule au Maroc, les Aiglons ont livré un match décisif contre les MENA National du Niger le samedi 1er juillet 2023 au stade de Rabat. Amadou Tolo.
Et de 3, ça passe pour les Aigles U23. Au terme de la partie, les poulains du coach Aliou Badra Diallo di Conti se sont imposés sur le score de 2-0. Une victoire qui offre aux Aiglons la deuxième place du groupe synonyme d'une qualification pour les demi-finales de la compétition. Cette rencontre avait des enjeux des deux côtés. D'abord, une victoire obligatoire pour les Maliens et un nul ou une victoire pour les Nigériens. Dès le coup d'envoi, Maliens et Nigériens ont livré des duels serrés pour le contrôle du jeu. C'est dans ces conditions que les Aigles Espoirs obtiennent un pénalty dès la reprise de la mi-temps. Pénalty transformé par Mamadou Sangaré. Cette ouverture du score des Aigles sonne la révolte des Nigériens qui se sont jetés dans la course à l'égalisation. Mais heureusement pour les nôtres, les Nigériens manqueront de réalisme devant le but malien. C'est dans ces conditions que les Aigles Espoirs réagissent et marquent un second but dans les derniers instants de la partie. 2-0 pour le Mali à la 90e minute de jeu par Chekna Doumbia. Pour la première fois de l'histoire, les Aigles Espoirs se qualifient pour les demi-finales de cette CAN U23. Les demi-finales opposent le Mali au Maroc ce mardi à 20h temps universel au stade Moulaye Abdellah de Rabat au Maroc.
Merci Amadou Tolo pour toutes ces précisions. Voilà, c'est ce qu'il fallait retenir de ce journal que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur Djoliba FM.